Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Ségou, Pelengana et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le titre de ce journal. Plusieurs terroristes ont été neutralisés lors d'opérations conjointes menées par Barkhane, les FAMA et les forces armées nigériennes. C'était durant le mois d'août dernier à Bentia, Fafa et dans la forêt de Sorori dans le cercle d'Ansongo. Fin hier d'un atelier de formation à l'intention de la Commission nationale des droits de l'homme, de la société civile ainsi que des médias à Ségou. L'initiative est du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Des détails avec notre envoyé spécial. Le dossier de la rédaction s'intéresse à l'homonymie. Au Mali, à chaque naissance, on donne généralement le prénom d'un parent ou d'un proche au nouveau-né. La pratique garde-t-elle toujours son sens dans notre société? Réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sékou Gadjigo, mise en onde Gagné Kanté. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Du 23 au 27 août 2021, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la zone des trois frontières au cours des opérations conjointes menées par Barkhane, les FAMA et les forces armées nigériennes. Dans un communiqué publié le 3 septembre dernier, la force française indique que ces opérations ont eu lieu à Bentia, Fafa et dans la forêt de Sorori, dans le cercle d'Ansongo ainsi que dans la région de Douenzan. Les détails avec Imiran Akilouma.
Ces opérations avaient pour objectif de déstabiliser le groupe armé terroriste et de sécuriser le convoi. Celles-ci devraient permettre de rassurer la population après les exactions commises par l'EIGS, indique Barkhane dans son communiqué. Le document explique que plusieurs terroristes ont été mis hors d'état de nuire et des armes de guerre, téléphones et radios ont été saisis ainsi qu'un pick-up détruit. De vastes opérations de fouilles dans les villages de Fafa, Bentia et de la forêt de Sorori ont été engagées lors de cette par la compagnie des forces armées nigériennes et une section des FAMA. Ces missions ont bénéficié d'une douzaine d'appuis aériens, chasse et renseignements guidés par la force Barkhane et par les moyens aériens tactiques avancés GATA des armées partenaires, précise le communiqué. Des drones ont assuré plusieurs opérations de protection et de surveillance des convois des FAMA dans la région de Douanza afin de prévenir d'éventuelles embuscades ainsi que dans la zone des trois frontières. L'objectif était de détecter, au profit des FAMA, des indices sur la présence de groupes armés terroristes qui évoluent dans cette région, conclut le communiqué de la force Barkhane.
Pendant ce temps, le village de Songo, dans le cercle de Nyono, est toujours assiégé par des présumés djihadistes. Depuis samedi dernier, au moins 5 personnes ont été tuées par les assaillants qui encerclent la localité depuis le mois de juillet. Les habitants qui manquent de tout lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités du pays. Écoutons cet habitant de Songo qui a requis l'anonymat. Il est joint par Aïssa Tadjara.
Depuis le samedi dernier, ces hommes armés ont attaqué les populations. Il y a eu 2 morts. Hier encore, c'était les coups de feu et ça a duré plus de 6 heures. 3 personnes ont reçu des balles et sont mortes. Nous sommes désespérés. Nous ne savons même pas qui sont ces gens. Bientôt 3 mois, personne n'entre et ne sort du village. On est en manque de tout. Pas de nourriture ni de médicaments. Plusieurs personnes ont perdu la vie à cause de la faim et du manque de médicaments. Présentement, nous sommes en train de voir comment quitter le village, mais c'est difficile. Vu que le village est encerclé depuis le 3 juillet dernier, nous avons alerté les autorités et même le gouvernorat. Mais jusque-là, personne ne nous a secourus. Hier, au moment des tirs, nous avons aperçu un avion. Nous avons pensé qu'il venait pour nous aider. Mais hélas.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dans une note publiée ce mercredi, le gouvernement annonce la tenue des réformes politiques et institutionnelles entre septembre 2021 et février 2022. Il indique aussi qu'un chronogramme précis et détaillé sur les élections sera communiqué à l'issue des assises nationales sur la refondation. Il faut signaler que la veille, la délégation de la CEDEAO, en fin de mission au Mali, a demandé aux autorités de transition de tenir l'élection présidentielle en février, conformément au chronogramme initial.
Dans la note, le gouvernement précise que les assises nationales de la refondation seront organisées dans une période de 9 à 10 semaines. Objectif, faire un diagnostic de la crise multidimensionnelle. Elles tiendront compte des recommandations et conclusions de différentes rencontres tenues antérieurement. Ainsi, elles serviront de base pour les réformes telles que la relective de la loi électorale, la relective des lois portant charge des partis politiques, l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution et la tenue du référendum constitutionnel. Des réformes prévues entre septembre septembre 2021 et février 2022, peut-on lire dans la note. Ainsi, ajoute le gouvernement, un chronogramme détaillé et consensuel pour les élections sera établi à l'issue des dites assises. Préalablement aux élections, les opérations spéciales d'enrôlement des Maliens de l'extérieur ainsi que le traitement de leurs données sont prévues entre septembre et octobre 2021, de même que les révisions des listes électorales d'octobre à décembre 2021. En revanche, la note indique que la mise en place de l'organe unique de gestion des élections n'est pas liée au calendrier des assises de la refondation.
Direction Ségou ou un atelier de formation à l'intention de la Commission nationale des droits de l'homme, de la société civile et des médias a pris fin hier. L'initiative est du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, cela à travers son projet d'appui à la force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. L'objectif est de consolider l'exposition du projet. Il s'agissait aussi d'impliquer davantage les fêtières à relever les défis avec des stratégies de communication et l'élaboration d'outils de sensibilisation pour le respect des droits de l'homme. Le compte-rendu de Khalifa Goïta.
Face à l'insécurité qui sévit dans les pays du G5 Sahel, les droits de l'homme sont souvent bafoués. C'est pour minimiser l'impact de cette situation sur les populations que ce projet a été initié. Sébastien Umundo, expert police du projet cadre de conformité aux droits de l'homme de la force conjointe du G5 Sahel.
C'est une nouvelle approche. L'objectif est de réduire les impacts liés aux opérations militaires sur la population civile. Je veux parler des opérations conduites par la force conjointe du G5 Sahel. C'est d'appuyer cette force conjointe et que des enquêtes soient menées en cas de violation.
Les participants saluent ce cadre d'échange. Ils estiment qu'il permettra à coup sûr de mieux informer et de mettre fin aux cas de violation des droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont violés, tout le monde le sait. Il faudrait bien qu'on soit mieux outillé, donner des messages de sensibilisation dans le cadre de la paix et de la stabilisation.
L'initiative, c'est une bonne chose. Ce combat, nous avons beaucoup à faire. C'est à nous, les journalistes, de nous battre pour que au moins la population puisse avoir ses droits.
Le projet d'appui à la force conjointe du G5 Sahel a vu le jour en 2018 sur financement de l'Union européenne. De Ségou, Khalifa Goïta pour Studio Tamani.
Alors parlons à présent du mariage entre religieux, notamment musulmans et chrétiens. Depuis des décennies, le sujet suscite des discussions. Si dans la religion musulmane, il est interdit pour une femme d'épouser un homme qui n'est pas de sa religion, chez les chrétiens, se marier avec une personne d'une autre confession est aussi soumis à des conditions. Aïssata Diarra s'est intéressée au sujet.
J'ai rencontré une fille chrétienne avec laquelle je voulais me marier, mais les parents ont refusé parce que je n'étais pas un chrétien. On a fait à peu près 3 ans de lutte comme ça.
J'ai rencontré un chrétien en 2011-2012. On voulait se marier, mais mon papa avait montré sa position. On a tout fait.
C'est l'affirmation de certaines personnes qui n'ont pas pu avoir la chance de se marier avec leur partenaire des religions différentes. Pourquoi la religion musulmane émet des réserves sur le mariage d'une femme musulmane à un homme des religions différentes? Diallo Mahamadou Moussa, imam de la mosquée de Torokoroboko, nous donne les raisons.
Tout simplement parce que nous croyons en Dieu unique, nous croyons à l'ensemble des prophètes. Mm-hmm. Un chrétien ne croit pas à Mahomet, donc c'est pourquoi l'islam n'accepte pas.
Pour consommer un mariage entre un catholique et une personne d'une autre religion, l'évêque doit donner un document qui autorise les mariages, affirme Abbé Kizito Togo, curé de la paroisse de Mopti.
La partie qui est musulmane va accepter de laisser la partie catholique sur sa religion. La partie musulmane doit aussi accepter le mariage, il est monogamique, l'indissolubilité. L'éducation chrétienne des enfants doit être garantie. Si la partie musulmane refuse, il ne pourra pas faire ce mariage à l'église.
Cependant, les rêves de beaucoup de jeunes restent brisés à cause de cette situation.
Reportage signé Aïssata Diarra. D'un sujet de société à un autre, au Mali, à la naissance d'un enfant, on donne le prénom d'un parent ou d'un proche ou au nouveau-né lors du baptême. Selon des traditionalistes, cette pratique consiste à renforcer l'amour et la reconnaissance envers la personne. Quelles sont les motivations? Cette pratique est-elle dépourvue de son sens aujourd'hui? Qu'en pensent les Maliens? C'est le sujet de notre dossier du jour, signé Moussa Mali Sissoko.
Alassane Kanouté est père de 3 enfants, dont une fille. Il habite à Medina Koura, un quartier de Bamako. Il affirme avoir donné les prénoms de ses parents à ses enfants. Selon lui, cette action vise à perpétuer leur mémoire à travers les enfants.
J'ai donné le nom du grand frère de mon père à mon premier fils, qui est Sekou. Ensuite, vient le nom de mon propre père, qui est Mamadou. Bon, maintenant, on a une fille qui porte le nom de Adjaratou. Parce que ça, c'est du côté maternel de ma femme.
Cette pratique consiste à renforcer l'amour et les liens de parenté ou d'amitié dans la société, explique le traditionnaliste Mokhtar Kone, président du réseau des communicateurs traditionnels du Mali, Rekotrad. De son côté, Fodje Tandjigoura, sociologue, déplore que cette coutume perd de plus en plus son sens.
On a le sentiment de conserver la mémoire de son père et de se rappeler de ce qu'a été son père tout au long de l'existence de l'enfant. Mais aujourd'hui, lorsque les parents sont pauvres, ils savent quand même d'attribuer l'enfant à une personne qui a un peu de moyens, non pas par reconnaissance, mais uniquement par stratégie de calcul.
Certains prénoms de l'enfant au Mali peuvent provenir d'une circonstance exceptionnelle ou d'une saison, selon le sociologue.
Actualité, coronavirus, 12 nouveaux cas de COVID-19, 2 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. À ce jour, la situation cumulée est de 14 961 cas positifs, 14 142 patients guéris et 532 décès. Retrouvons la rubrique Actu COVID présentée par Moussa Mali Sissoko.
Mesdames et messieurs, bienvenue aux informations sur la maladie à coronavirus. Comme tous les mercredis et jeudis, nous vous proposons une série de questions posées par des auditeurs. Des réponses sont données par des spécialistes des maladies infectieuses.
Bonjour docteur. Pendant cette période hivernale, les enfants sont fréquents dans les rivières. Encourt-il un danger de contamination à la COVID-19?
Oui, l'eau qui baigne stagnante, c'est vrai que ce n'est pas approprié pour la baignade et ce n'est pas approprié pour qu'on boive. Déjà, quand on dit les enfants qui baignent, ce n'est pas un seul enfant qui va baigner. Ça aussi, c'est quand même un coin de regroupement. Mais une chose est sûre, et la maladie est contaminée plus en interhumain et par voie aérienne. Il n'a pas été décrit que celui qui baigne va laisser son virus dans l'eau et puis l'autre vient se contaminer dans l'eau. Bon, on ne peut pas vous donner des explications plausibles à ce stade.
Allô docteur, la toux et l'écoulement nasal peuvent-ils être signes de la COVID-19?
L'écoulement nasal, ça peut être effectivement autre pathologie, ça peut être une rhinite allergique, mais dans un contexte épidémique, il faut aller vous faire tester, parce que si ça accompagne de fièvre, avec la fatigue, il faut le tester.
Bonjour docteur, est-ce qu'un nouveau ne peut contracter la maladie à coronavirus?
Bien sûr, il y a des études qui ont montré qu'il y a des enfants qui sont nés avec le virus même. C'est-à-dire que les mamans ont transmis la maladie à ces bébés-là qui sont nés. Et il y a des bébés qu'on a trouvés qui ont eu la maladie. Mais généralement, les enfants, les nouveaux-nés-là, ils sont infectés par les parents.
Comment éviter la COVID-19 dans les bars et restaurants avec les mêmes cuillères et assiettes utilisées?
On a dit dès le début, il faut arrêter les regroupements parce qu'on sait que si on fait des regroupements au niveau des bars, des restaurants, il y a beaucoup de monde, donc le virus se transmet facilement et on a la possibilité de transmettre à beaucoup de gens. Il faut éviter ces rassemblements-là, ça c'est un. Et de deux, il faut toujours avoir une aseptique, c'est-à-dire que laver les assiettes avec l'eau de javel ou du savon ou bien l'eau chlorée, ensuite désinfecter les assiettes, les cuillères, les fourchettes, tout ça là.
Ainsi se referme cette page d'informations sur le coronavirus. Merci pour votre fidélité au programme de Studio Tamani.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, multiplication des opérations de contrôle à SIC aux alentours du marché. Depuis une semaine, la mairie de la ville procède à la saisie des engins mal stationnés et des marchandises hors normes. Les responsables disent que ces mesures visent à sécuriser les usagers de ces lieux, mais les populations apprécient diversement ces actions. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo, mis en nom de Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site web studiotamani.org ou en appelant au 37 321.